Je voudrais, étant donné que nous sommes ici de différents pays, de différentes nationalités, différentes langues et de différentes origines ethniques, je voudrais lire la parole glorieuse de l'Apocalypse au 5e chapitre. Il y a de nombreux passages à ce sujet, y compris dans Galates, lorsque Dieu dit à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre. » Dans Apocalypse, le chapitre 5, je lis les versets 9 et 10. Les versets 9 et 10. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu t'es laissé immoler et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront comme rois sur la terre. » Nous chantons dans notre cœur, « À toi, agneau de Dieu, soit la gloire, ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as libérés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, des rois dans ton royaume. Nulle part sur terre existe un peuple semblable au tien. » Et comme le frère Rousse le disait tout à l'heure, dans les temps passés, ce sont d'autres qui ont été une propriété de Dieu, qui ont vécu en leur temps l'action de Dieu, qui ont reconnu dans leur jour la visitation divine et l'ont accepté dans la grâce. Aujourd'hui, nous le sommes. Aujourd'hui, nous pouvons l'être par grâce. Nous ne nous attribuons rien de particulier et nous ne nous plaçons pas non plus au-dessus des autres. Mais nous avons reconnu assez qu'il ne s'agit pas seulement de devenir un peu chrétien, religieux, pour ensuite, donc un peu comme ça, d'une manière ou d'une autre, soit des gens chrétiens, pour ensuite devenir, avoir de la littérature chrétienne ici et là, mais il s'agit de devenir une nouvelle création. Il s'agit d'avoir ce lien avec Dieu, d'avoir la communion avec Dieu personnellement. Quand on entend nos politiques, ils veulent une Europe chrétienne, ils veulent. C'est juste dommage qu'ils se qualifient par ce C d'international catholique, car c'est l'intention globale que tous ceux qui ont fait sécession reviennent, qui se sont retirés reviennent. Et quand j'ai lu qu'exactement 100 membres du clergé de la haute église anglicane sont retournés à l'église romaine et ont déclaré officiellement leur départ de l'église anglicane en Angleterre. Et de plus en plus, toute cette blessure se cicatrise et l'humanité ne voit pas que derrière toute cette décoration, toute cette apparence, le chemin vers l'enfer est ouvert. Il n'y a eu qu'une seule personne dans notre génération qui a reçu la vue d'ensemble par Dieu, la compréhension et la responsabilité divine d'appeler les choses par leur nom. Je ne mentionnerai qu'une seule chose dans les années 60. Là, je me suis écroulé de la force corporelle. Alors que Frère Branham, sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, il était sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et soudain, il a eu toutes les dénominations devant les yeux et s'est exclamé dans sa prédication, toutes les dénominations sont des mouvements anti-Christ. Et déjà là, j'ai eu la première piqûre et la deuxième a suivi. Il a ensuite énuméré les différentes dénominations et parmi elles, la dénomination pentecôtiste. Et là, j'ai été terrifié. Et je me suis dit, au moment où j'entendais cela, « Homme de Dieu, tu ne vas pas là, trop loin. » Aujourd'hui, 20 ans plus tard, je peux dire que Dieu a par grâce accordé à cet homme une vision, une vue prophétique. Lui a montré où tous ses chemins allaient et cela a été plus loin que nous ne pouvons tous le reconnaître. Et cela est allé plus loin que nous pouvons tous le reconnaître. Le monde entier rend hommage à un homme et il ne le sait pas. Les plus grands politiciens et même les pires, s'ils veulent arriver dans le monde, s'ils veulent atteindre quelque chose, quand il s'agit de faire les gros titres de la presse, alors il suffit qu'une visite au Vatican figure sur toute la liste. Ensuite, tout se déroule, tout marche, alors tout roule, n'est-ce pas? Et dans Apocalypse 13, il est écrit de l'Antichrist que le monde entier lui rendra hommage, sauf ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et c'est là que nous revenons au point important. Seuls ceux qui ont réellement reçu la révélation divine sur Jésus-Christ pourront aussi recevoir la révélation divine sur l'Antichrist pour le reconnaître dans toutes ses voies et ses subtilités. Celui qui ne sait pas par révélation qui est Christ ne saura jamais par révélation qui est l'Antichrist. Ici dans le texte, nous avons lu que de tous les peuples, langues et nations, un peuple de rois et de sacrificateurs a été racheté pour servir Dieu, pour régner avec Christ. Acceptons-le dans la foi que nous avons la grâce de l'être. C'est aussi ce que nous avons considéré ici. Il y a des appelés et il y a des élus. Les appelés aussi ont la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent pas avoir part à la première résurrection. Celui qui veut avoir part à la première résurrection doit accepter la parole révélée de l'heure. Il doit suivre avec obéissance le chemin de la foi avec Dieu. Une deuxième parole similaire se trouve dans Apocalypse, le premier chapitre. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le dominateur des rois de la terre, lui qui nous aime et qui nous aime et nous a délivrés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour son Dieu et Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour toute l'éternité. Amen. Il y a des gens comme ça, et nous le remarquons déjà, surtout quand on commence à lire l'Apocalypse. C'est là que la plupart des gens s'arrêtent et disent, soit que personne ne peut comprendre l'Apocalypse, soit que l'Apocalypse est seulement interprétée et que chaque interprétation est différente. Ce n'est pas tout à fait vrai. L'Apocalypse a été interprétée assez longtemps. Ce livre n'a pas été compris depuis assez longtemps, mais nous vivons à l'époque où le livre a été retiré des mains de son propriétaire initial. À l'époque où les sceaux ont été ouvert et le contenu révélé. Qui se souvient des prédications de Frère Branham de l'année spécialement 60 et 61, quand il disait à plusieurs reprises que le Seigneur lui avait montré quand sur sa route les bulldozers viendraient pour élargir sa route et installer de nouvelles canalisations. Lorsque sa clôture sera soulevée et qu'il percevra tout cela, alors le temps, sa clôture sera enlevée et qu'il percevra tout cela, alors le temps sera venu pour lui de partir vers l'ouest. Toute sa vie, il a attendu ce moment. Toute sa vie. Et je me souviens très bien du jour où je suis effectivement arrivé en décembre 1962, sur cette rue Evelyn Lanes, c'était sa rue, et tout était bouleversé par les bulldozers, la clôture était couchée, les poteaux étaient renversés, ainsi de suite. Ensuite, quand j'ai parlé à Frère Branham, il m'a dit plusieurs choses, entre autres, il m'a dit que nous allions déménager à Tucson dès le début du mois de janvier de l'année prochaine. Tout s'est passé comme Dieu le lui avait montré dans la vision. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur que je peux même le voir, j'ai pu le voir de mes propres yeux et en témoigner maintenant. Puis, le 22 décembre 1962, Dieu lui a montré la vision que les sept anges allaient venir. Dans la vision, il l'a vu. Il s'est vu se pencher pour retirer une bardane de sa jambe de pantalon. Et alors qu'il se penchait, un bruit assourdissant, très puissant, a retenti. Et sept détonations successives ont eu lieu. Et il a dit que c'était sa mort ou que ça l'avait touché. Vous connaissez toutes ces déclarations à ce sujet. J'en ai parlé dans la dernière lettre circulaire. Frère Branham a souvent appelé cette expérience l'événement des sept tonnerres, et cela en relation avec sa réalisation le 28 février 1963, lorsque la vision s'est littéralement accomplie. Il a souvent appelé l'événement des sept tonnerres. J'ai même publié sa citation dans la lettre circulaire et je n'ai pas la seule. Il y en a plusieurs comme elle qu'il en parle ainsi, de cette manière. Mais les frères l'ont ensuite mal compris. Ils n'ont pas ils n'ont pas approfondi la question, ils n'ont pas allé assez approfondi, pas assez réel pour comprendre dans le contexte de quoi il s'agissait vraiment comme événement. Ce n'est pas parce qu'une phrase correspond à mon concept que je dois la sortir de son contexte initial. Je dois laisser cette phrase là où elle a été faite et dans son contexte. Et je considère comme une grande grâce de Dieu que nous avons eue dès le commencement de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de ne rien interpréter de notre propre chef, mais d'attendre qu'il plaise à Dieu de faire certaines choses. Heureux celui qui sait attendre, qui sait persévérer, qui sait prendre patience. Tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes, Dieu doit le faire. Dieu devra le mettre de côté. Cela ne pourra pas subsister devant lui. Qu'espérons-nous obtenir ainsi devant Dieu en faisant les choses nous-mêmes? Non. Nous attendons l'action surnaturelle de notre Dieu. Ceux qui continuent à lire les prédications savent que Frère Branham ne savait pas toujours tout de suite ce que cela signifiait. Comment cela allait s'accomplir? Je pense en particulier au moment où il a eu cette vision de la tente et de toutes les choses qui allaient s'y produire. Il dit même, je ne sais pas si c'était une tente ou une cathédrale. D'une part, elle ressemblait à une tente parce qu'elle était ronde. Et d'autre part, elle avait une surface qui ressemblait à une cathédrale. Il ne savait pas comment cela allait se passer, ni quand cela allait se passer. Bien-aimés, tous ceux qui ont déjà reçu quelque chose de la part de Dieu devront admettre que même les visions et les révélations ne sont pas toujours suffisamment claires pour que l'on puisse dire avec une certitude absolue que c'est comme ça et que ça va être comme ça. Il faut savoir attendre. Vous voyez, j'avais sans doute l'intention de le dire ici hier soir. Je n'ai pas eu beaucoup d'expérience dans ce sens avec Dieu. Mais lorsque j'ai vécu une expérience et que j'ai vu une immense salle devant moi et une grande foule prendre place, et que j'ai regardé la salle et il y avait encore des places libres partout, et soudain une voix s'est faite entendre sur la plateforme où je me trouvais au-dessus de moi. L'épouse de l'Est s'ajoutera encore. Puis j'ai regardé à ma gauche et c'était d'où je me tiens. Si je me tenais ici, il y avait une porte à gauche, à ma gauche, et elle s'ouvrait d'elle-même. Et des gens sont entrés en grand nombre. Et soudain, un frère est arrivé et on a dit, c'est le frère de Russie. L'épouse le suit. L'épouse de la Russie le suit. Et puis, on a dit, quand cela arrivera, alors ce sera fait. Je ne peux pas donner de détails parce que je ne les connais pas. Mais il y a une chose que je sais et que je peux dire. Nous sommes maintenant plus proche du retour de Jésus-Christ que jamais auparavant. Les dernières choses viendront coup sur coup et elles se dérouleront rapidement. L'une prendra le relais de l'autre, si bien que nous aurons du mal à suivre. Ce qui est important dans tous les cas, c'est que là aussi, nous n'interprétions rien. Si je regarde maintenant cette salle d'un point de vue terrestre, je n'y vois pas de porte comme celle que j'ai vue dans la vision. D'autres choses sont alors différentes. Je ne peux donc jamais dire qu'il s'agit de cette salle où nous sommes maintenant. Peut-être que Dieu voulait juste montrer par une image si ceci et cela se quand ces choses se produiront, alors le nombre sera plein, la totalité sera entrée et c'est là que ça se passera. Dieu m'a fait la grâce d'oublier même certaines choses, de sorte que je n'ai pas du tout la possibilité d'accrocher après. D'accrocher après des choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Même les choses énormes que Frère Branham a vues, je n'oublierai jamais le 19 janvier 1966. Vous savez, c'était seulement 3 ou 4 semaines après le départ de Frère Branham. Et nous n'étions pas tous de très bonne humeur. Nous étions tristes parce que le Seigneur avait pris à la maison un tel homme de Dieu. Et je l'avoue ouvertement, j'étais très inquiet et je le suis encore aujourd'hui. Quand je pense à l'achèvement de l'Église épouse et ensuite à ce que nous avons reçu jusqu'à présent, alors je ne sais pas comment l'œuvre sera menée à son terme. Tant que Frère Branham était ici, Dieu a été avec lui d'une manière extraordinaire. Il faut que vous vous en rendiez compte. Après la prédication, une action surnaturelle de Dieu a en effet commencé sur la terre. L'ange du Seigneur s'est placé à sa droite sur la plateforme. Et il a dit, au jour du jugement, vous verrez que l'ange s'est tenu à moins de 2 pieds de moi. 3 pieds, c'est environ 1 mètre. Donc, 3 pieds, c'est 96 centimètres, 96 centimètres. Alors, vous pouvez imaginer que l'ange du Seigneur se tenait juste à sa droite. Directement à sa droite, juste à sa droite. Que Frère Branham soit en Allemagne, en Suisse, en Finlande, en Inde, en Afrique, où il prêchait. Son traducteur était toujours à sa gauche, toujours. Il n'y a jamais eu de service où le traducteur se trouvait à la droite de Frère Branham. Il se tenait toujours à gauche, car Frère Branham savait que l'ange du Seigneur se tiendrait à sa droite lorsque le service commencerait. Maintenant, imaginez qu'un ange du Seigneur se place à côté de lui sur la plateforme et que la colonne de feu, la lumière surnaturelle entre dans la pièce. Il la voit avec ses yeux ouverts. Il n'a jamais fermé les yeux lorsqu'il a vu une vision. Quand les croyants voient une vision, ils ne le font jamais les yeux ouverts. Si tu regardes ici avec les yeux ouverts, tu vois ici la plateforme. Et quand je regarde là, je vous vois. Celui qui veut voir une vision de Dieu doit avoir les yeux fermés pour pouvoir ensuite être emporté dans une autre dimension. Mais Frère Branham, lui, il avait les yeux ouverts. Sauf l'œil droit qui descendait un peu plus bas. On pouvait le voir directement. J'ai littéralement regardé ce qui se passait pendant qu'il voyait une vision. C'était un moment. Au moment du rassemblement, on a remarqué que, on remarquait que l'action surnaturelle de Dieu avait commencé. Bien-aimés, j'ai dit cela pour la raison suivante. Nous avons parmi nous des nouveaux venus et vous vous demandez, et ils se demandent à juste titre, oui, qui est donc ce frère Branham là? Qu'est-ce que vous avez avec lui? Ce n'est pas nous qui l'avons, c'est Dieu qui l'a. Et parce que Dieu l'a eu avec lui, Dieu l'a aussi avec nous. Nous avons compris et reconnu que Dieu l'a envoyé dans notre génération et que Dieu était avec lui et qu'il n'y a jamais eu d'homme sur terre qui ait exercé un tel ministère. C'est pourquoi nous sommes convaincus, comme il lui a été dit lors de son envoi le 7 mai 1946, que son message ira loin et qu'il priera pour les rois et les princes. Qui peut imaginer que le prestigieux roi George, le 6e d'Angleterre, demande à frère Branham de venir prier pour lui avant de mourir. Le roi d'Angleterre, le père de la reine Élisabeth, n'a pas appelé un Billy Graham ou qui que ce soit d'autre. Il a fait appeler frère Branham. Et vous avez certainement lu le livre Un homme envoyé de Dieu, par Dieu. Envoyé de Dieu. Lorsque les croyants d'Afrique du Sud ont appris que frère Branham allait venir à Londres, ils ont mis cette Nightingale qui n'avait que la peau sur les os dans un avion et l'ont amené à Londres. J'aime lire ces témoignages. Il y a un frère Branham dans la chambre d'hôtel et soudain une colombe blanche est assise sur le bord de la fenêtre dehors et là de bonne heure très tôt le matin et frère Branham dit au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par cela? Qu'est-ce qui m'attend ici? Je ne sais pas si tous ces détails se trouvent dans l'édition allemande, probablement que oui. Et Dieu a tout arrangé pour que cette femme, qui n'avait que la peau sur les os et qu'aucun homme ne pouvait plus comprendre ou trouver encore de la vie en elle, cette femme a retrouvé la santé en un instant. Nous avons vu les deux photos. L'une complètement condamnée et marquée par la mort et l'autre photo montrant comment elle vit normalement ensuite. Bien-aimés, Dieu dans notre temps a fait de grands, dans nos jours a fait de grandes choses. Mais nous, nous en tenons à l'indication et aux deux citations de ces choses. Elles sont devenues pour nous des repères. Elles ont indiqué un but. Et ensuite, frère Branham dit, ce ministère, avec les miracles et les signes, et avec le don de discernement, m'a été donné par Dieu pour attirer l'attention des gens sur ce que Dieu a à leur dire par le message. Il a ensuite fait la comparaison que notre Seigneur Jésus aussi avait lui d'abord eu ce ministère énorme avec les guérisons, avec la résurrection des morts et ainsi de suite. Et puis le message ensuite a suivi auxquels beaucoup s'en sont offusqués, n'est-ce pas? Ils n'ont plus suivi le Seigneur. Combien de fois j'entends cela à l'étranger et de la part de prédicateurs, d'évangélistes, etc. Ils disent, frère Franck, nous savons que William Branham était un homme envoyé de Dieu, ou alors par Dieu. Mais ces trois dernières années, il s'est passé quelque chose. Il a prêché différemment qu'avant. Et puis, ensuite, il me demande encore si je n'en sais pas plus à ce sujet. Et comme vous pouvez vous en douter, ils ont trouvé en moi le bon interlocuteur, n'est-ce pas? Je sais, en effet, ce qui s'est réellement passé au cours des trois dernières années et ce qui était tout à fait différent. En mars 1963, c'était quand? Du 16 jusqu'au... Ou bien alors, du 17 jusqu'au 24 mai, mars, du 17 jusqu'au 24 mars, c'était l'ouverture des sceaux. Et là, frère Branham témoigne devant le Dieu Tout-Puissant qu'il a attendu chaque jour jusqu'à midi dans sa chambre et qu'il a baissé les stores. Et soudain, la lumière surnaturelle est entré dans la pièce et le sceau, lui, a été littéralement révélé mot à mot et communiqué de manière surnaturelle de la part de Dieu. Et c'est pourquoi il a pu dire que c'est ainsi dit le Seigneur. Dans le premier sceau, vous entendez dans... vous l'entendez rapporter. Il dit, alors j'aurais fait une grosse erreur si le Seigneur ne m'avait pas interpellé aujourd'hui vers 14 heures. Il avait auparavant parlé du premier sceau d'une manière tout à fait différente. Mais maintenant, ce sceau lui a été révélé par cette lumière surnaturelle, de cette nouvelle lumière surnaturelle. Et puis il est passé du premier au deuxième, puis au troisième sceau, puis au quatrième sceau. Et cherchez sur terre un seul homme parmi tous ceux qui ont déjà interprété s'ils avaient atteint le but même de loin. Ils ont tous tâtonné dans l'obscurité comme frère Branham lui-même jusqu'au jour où il a plu à Dieu de révéler toute l'affaire. Et là même, un frère Branham ne peut pas dire « Je le savais déjà auparavant ». Il devait dire « Je ne le savais pas moi-même ». Et c'est ainsi que nous donnons tout l'honneur à Dieu. Et vous aussi, et lui aussi, il a donné tout l'honneur à Dieu et à Dieu seul. Quelqu'un m'a dit que frère Branham avait ouvert les sceaux. Je dis arrêtez. Il est écrit que seul l'agneau était digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Nous rendons gloire qu'à Dieu, à Dieu seul, et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais nous remercions Dieu d'avoir eu des hommes qui se sont soudain tenus devant lui, qui ont pu mettre de côté leur propre savoir, leur propre connaissance et transmettre ce que Dieu a révélé et ce que le Seigneur a dit. J'ai mentionné ces choses spécialement à cause de vous qui venez d'arriver. En effet, nous les savons et les connaissons déjà, mais même un rafraîchissement de ces choses merveilleuses nous fait du bien. Un rafraîchissement. Quand nous pensons que la lumière qui est apparue sur la terre de frère Branham, sur la tête de frère Branham et qui a été prise par des photographes de presse critique à Houston, Texas, que cette lumière est entrée dans la pièce 2 ou 3 heures après sa naissance et qu'elle était suspendue au-dessus de ce petit William Branham, et qui dit que ma mère, il disait ma mère et toutes les femmes qui étaient là l'ont vu et se sont demandé ce que cela pouvait bien signifier. Et puis à l'âge de 7 ans, la voix est sortie de l'arbre et lui a parlé. Il connaît aussi cette histoire. Vous connaissez aussi cette histoire, n'est-ce pas? Vous connaissez cette histoire? Il devait porter de l'eau, n'est-ce pas? À l'époque, il n'y avait pas encore de robinet, du moins pas dans les montagnes du Kentucky, que l'on aurait pu ouvrir d'où l'eau aurait coulé. Et alors qu'il passait sous ce peuplier imposant, il y eut soudain au sommet en haut de la couronne une puissante tempête comme si elle voulait tout déchirer ou tout brûler. Frère Branham a levé les yeux, prit peur et une voix lui a parlé du sommet de cet arbre. Ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, car lorsque tu seras plus âgé, il y aura une œuvre que tu auras à accomplir. Il courut chez lui à la maison. Il avait 7 ans. 7 ans. Qui est ici? Qui a 7 ans ici parmi nous? Qui a 7 ans? Si on pouvait faire venir un enfant de 7 ans parmi nous ici devant et mettez-vous à la place d'un enfant de 7 ans. Une voix audible lui parle d'un arbre. Il court à la maison et dit: maman, un homme m'a parlé depuis la cime de l'arbre. Vous pouvez vous imaginer ce que la mère ensuite a dit: Billy, tu es nerveux, viens te coucher. C'était des expériences tout au long de sa vie. Et le témoignage d'une vocation divine qui ne vient pas un jour, mais une telle vocation est dès l'enfance, dès le ventre de la mère. De tels hommes sont consacrés par Dieu à une tâche de l'histoire liée à l'histoire du salut et sont destinés et consacrés à Dieu depuis le ventre de leur mère. Et ce sont ces prophètes qui ne viennent pas dire « Oh, je suis prophète ici », mais des hommes qui n'ont pas d'estime pour eux-mêmes et qui doivent nager à contre-courant de la masse et se tenir du côté de Dieu, qu'ils vivent ou meurent à cause de la parole de Dieu. Un tel homme était frère Branham. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son ministère. Si l'on regarde un peu son anglais et la construction de ses phrases, on doit dire que sa formation scolaire n'allait pas jusqu'à la classe moyenne. Mais Dieu prend ce qui n'est rien devant le monde pour réduire à néant ce qui est quelque chose. Vous savez, il a été ordonné dans l'église baptiste dès son plus jeune âge comme prédicateur par le docteur Roy Davis. Et cela n'a duré que quelques mois. Puis vint la première mission et Dieu commença à agir et à parler de manière surnaturelle. C'est alors que frère Branham est allé voir cet homme bienveillant. Et c'est ainsi qu'il l'appelle. C'était un homme raffiné, mais qui ne comprenait pas le surnaturel. Et cet homme lui dit, Qui penses-tu? Qui crois-tu que quelqu'un viendra t'écouter? Qui crois-tu qui viendra t'écouter? Toi, avec ton peu d'instruction, et ainsi de suite. Et il répondit textuellement, tu parleras au poteau de la chapelle. Il y avait probablement eu 2, 3 ou 4 piliers dans le tabernacle aussi. Le frère Branham avait des piliers dans la pièce. C'est probablement ce qu'il a voulu dire. Et puis, frère Branham a dit en toute humilité, si Dieu m'envoie avec un message, il aura des gens pour entendre ce message. Et comme nous sommes reconnaissants au Seigneur de l'avoir entendu, nous aussi, bousculer le frère peut... Il pourra dormir sur ses deux oreilles plus tard, mais pas dans la réunion. On peut déjà céder du coude. Et comme je l'ai dit, nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu d'avoir entendu ce message divin. Mais maintenant que le sommeil arrive, je voudrais m'arrêter. Je pensais que les gens allaient se réveiller. Mais quoi qu'il en soit, certains sont trop fatigués par le travail, qu'on ne leur en tienne pas rigueur. Encore une parole magnifique tirée du deuxième chapitre de Pierre. Tant de choses sur le ministère et l'appel de frère Branham. Et je vous demande à tous de comprendre que nous avons reconnu et constaté dans ce mandat divin une confirmation de la prédication avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Veuillez nous croire. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Nous avons lu les Saintes Écritures et savons qu'il en est ainsi. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, nous lisons à partir du verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, par contre, vous êtes la descendance élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple choisi pour lui appartenir. Et vous devez proclamer les vertus et les œuvres glorieuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez auparavant un non-peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Autrefois, sans la miséricorde de Dieu, mais maintenant riche de la miséricorde de Dieu. Il devrait aller de soi et se laisser comprendre que Dieu ne peut pas dire oui et amen à toutes les orientations. Il ne peut pas dire que vous les méthodistes, vous avez raison, que vous les baptistes, vous avez aussi raison, que vous les mélonites avez raison et que tous les ont raison, environ 300 et plus, et puis peut-être que s'arrêter ici à Krefeld. Non, Dieu ne peut pas faire cela. Dieu doit placer sa parole comme norme unique, comme standard par la prédication dans l'Église parmi le peuple de Dieu. Et alors tous et tous les autres, tous ceux qui veulent suivre Dieu, obéir à Dieu, doivent abandonner tout le reste et servir et suivre le Seigneur. Même aussi loin qu'écrit, tel qu'il est écrit dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 5, un seul Seigneur, chapitre 4, verset 5, une seule foi, un seul baptême, etc. Il faut en effet en arriver là et reconnaître que ce n'est plus le temps où les gens ont leurs propres enseignements, leurs propres révélations, leurs propres connaissances, leurs traditions, leurs coutumes et tout ce qui s'est accumulé depuis des années et qu'ils apportent encore toutes ces choses et pratiquent toutes ces choses et mélangent ça avec la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible avec Dieu, ce n'est pas possible. Nous devons tout mettre de côté et nous placer devant Dieu et lui donner raison à lui et à sa parole seule et nous laisser mettre en accord avec sa parole. Éphésiens, chapitre 4, versets 4 et 5. Un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance lors de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous, etc., etc. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Quand on va parmi le peuple dit chrétien, vous ririez. Mais c'est vrai. Il y a des baptêmes où ils arrosent beaucoup les gens avec des seaux. On arrose les gens tout simplement, ou ils arrosent les gens, ils appellent cela baptême, des baptêmes. Et puis il y a aussi les baptêmes dont tout le monde a maintenant compris qu'ils ne peuvent pas être corrects. Ils sont alors trois fois comme ça dans la soi-disant Sainte Trinité qui n'existe pas du tout. Il n'y a en effet qu'un seul Dieu qui s'est révélé au ciel comme Père, sur terre, dans le Fils, et dans le peuple de Dieu par le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas trois dieux. Il n'y a vraiment qu'un seul Dieu, comme nous venons de le lire dans les Saintes Écritures. Mais les hommes l'ont repris de génération en génération. Et c'est là que nous arrivons au point, dans la Réformation, certaines choses doctrinales ont été reprises par les protestants. Le vieux levain romain, la vieille pâte acidifiée romaine a été transmise d'une église à une autre et est encore présente aujourd'hui parmi le peuple de Dieu. Et puis ils lèvent tous les mains, sont presque ivres de charismatique et chantent Alléluia. Et le diable rit aux éclats et dit, vous êtes tous trompés. Car vous avez bu à la coupe de Rome et vous êtes devenus ivres. Ce que Dieu donne est pur et saint. Et ça, je ne le dis pas seulement comme ici parce que cela doit être ainsi. Je le dis avec une conviction totale. Une chose que le pape pratique ne peut pas être juste. Quelqu'un peut venir habillé de blanc et l'imiter ici. Cette chose ne peut pas être juste. Comme il commence, puis il commence par le nom, vous connaissez, n'est-ce pas, tous cette formule. Non, oubliez tout cela. Que nous disent les Saintes Écritures? Vous voulez que je vous le lise? Que je vous la lise? La lise, les Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et tout ce que vous pourrez faire, soit en parole, soit en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en présentant à Dieu le Père, par son intermédiaire, vos actions de grâce, vos reconnaissances. Dans l'Église de Jésus-Christ, tout est fait au nom de Jésus-Christ. Et nous avons reconnu que Dieu s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le nom de Dieu, pour notre salut, est le nom de Jésus. Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Amen. non pas une formule, mais le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est dans ce nom-là que nous annonçons l'évangile, le pardon des péchés, le salut, la grâce. C'est en ce nom que nous baptisons, quoi que ce soit qui soit fait en parole ou en acte, selon la volonté de Dieu et conformément à celle-ci. Cela se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous pouvez aller dans tout le pays et voir comment tout le peuple, jusqu'aux églises pentecôtistes, et ces derniers temps, comme ce n'était pas le cas auparavant, on a déjà introduit cette formule en grande partie. C'est tout simplement triste. Ils retournent à Rome, au lieu comme la Bible nous le suggère, de lancer le dernier appel et laisse le dernier appel lancer. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et je vous accueillerai, agréerai, et vous serez mes fils et mes filles. Et je serai votre Dieu. La confusion ne sera pas dans le ciel. Dans le ciel, il y aura une troupe rachetée par le sang, un peuple de rois et de sacrificateurs, un peuple purifié par le sang, lavé par la parole, sanctifié par l'Esprit. Une église des premiers-nés, une église qui sera changée à l'image de Jésus-Christ. Veillons à ce que nous en fassions partie par grâce. Je conclurai par la pensée que Frère Rousse a transmise au début. Nous ne pouvons pas adhérer à l'Église de Dieu. Nous ne pouvons pas en devenir adhérents. Nous devons y naître par l'Esprit. Jésus a dit, ce qui est chair est chair. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau, que vous deviez naître de nouveau. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Puisse l'Esprit de Dieu prendre la semence divine de la parole et la planter dans nos cœurs pour y produire quelque chose de nouveau, un renouveau, une nouvelle naissance, pour qu'il puisse être aussi dit de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, ici, cela peut être ton expérience par la parole, par l'Esprit et par le sang du Seigneur. Cela peut devenir aujourd'hui, ici, en ce lieu, ton expérience personnelle, une réalité divine, maintenant.